Éclairage.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
On retrouve Marine Digabel.
Bonjour. À force de débattre sur sa légalisation, on en oublierait presque que le cannabis est une drogue. On le qualifie souvent de drogue douce comme s'il s'agissait d'une drogue sympa qui ne fait pas mal. Pourtant, les experts sont formels. Les effets néfastes du cannabis sont nombreux et certains sont irréversibles. Dans ce cas, d'où vient l'idée de drogue douce ? Ne contribue-t-elle pas à la banalisation de la consommation chez les adolescents ? À 18 ans, un jeune sur deux a déjà goûté un joint et un garçon sur six est un consommateur régulier. Ces chiffres indiquent que le cannabis est devenu un phénomène de masse. Alors que l'appréhension de la cigarette se modifie progressivement au détriment du tabac, le cannabis conserve souvent son statut d'icône cool auprès des jeunes. Ils s'estiment bien informés sur l'alcool et le tabac, mais beaucoup d'entre eux considèrent qu'il manque d'éléments sur le cannabis. Alors peut-être est-ce un atout à exploiter dans le cadre d'une campagne de prévention ? Campagne dont l'efficacité imposerait de prendre en compte à la fois les a priori des jeunes, les inquiétudes des parents et les données scientifiques. Les éditions Lavoisier publient cet automne un cahier de rapport de l'Académie nationale de médecine intitulé « Désamorcer le cannabis dès l'école ». Pour nous aider à faire le tri entre le vrai et le faux sur le sujet, nous accueillons le professeur Nordman de l'Académie nationale de médecine qui a dirigé ce livre. Professeur Nordman, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour madame. Je suis heureux de contribuer à essayer de diffuser des notions validées sur le cannabis, car comme vous l'avez très justement dit, parfois elles sont occultées ou méconnues.
Je propose qu'on commence par revenir aux sources. Le cannabis, c'est quoi exactement ?
Le cannabis, c'est une plante. Une plante, c'est une variété de chanvre. Il en existe deux variétés essentielles. Le chanvre textile, qui est largement utilisé pour fabriquer des cordes, des cordages, qui a une teneur en principe actif, dont nous parlerons longuement, le principe actif qui est responsable des effets du cannabis dans l'organisme, c'est le delta-9-tétrahydrocannabinol. Ce principe actif est très peu concentré dans le chanvre textile.
C'est ce qu'on appelle le THC.
C'est ce qu'on appelle le THC. Par contre, l'autre variété, le cannabis indica, lui, qui est la plante qui est utilisée à titre de drogue ou qui est consommée par des utilisateurs de plus en plus jeunes, ce cannabis est riche en THC. Et ce produit psychoactif est présent surtout au niveau des sommités florales, l'extrémité des feuilles, surtout dans les plantes femelles. Et on peut, à partir de ces plantes, donc, préparer un produit qui peut soit être la plante elle-même, que l'on utilise notamment sous forme de produits à fumer, c'est la marijuana, soit on peut extraire de cette plante une résine qui, elle, porte des noms multiples, hashish ou shit. Ce produit est extrait de la plante, on bat la plante et on obtient des graines élémentaires que l'on agglomère par différents moyens, parfois par des moyens tout à fait surprenants, du cirage, on a récemment trouvé des petites billes de verre. Ça, évidemment, c'est exceptionnel, mais cela montre qu'on cherche à augmenter le poids de cette résine qui sera présentée finalement sous forme de barrettes et généralement consommée avec du tabac. Mais on peut aussi fumer ce produit à l'aide d'une pipe à eau. Et ceci est un moyen qui se développe actuellement, malheureusement. Dans ces conditions, le produit est inhalé après qu'il est barboté dans de l'eau. Or, le THC est un produit lipophile, c'est-à-dire qu'il est très soluble dans les graisses, mais pas dans l'eau. Par contre, les autres produits irritants qui sont présents dans ces extraits de plantes, eux sont solubles dans l'eau. Alors que se passe-t-il? Si on fume ce hashish mélangé par exemple à du tabac sans pipao, rapidement il y a une irritation de la bouche et de la gorge qui fait qu'on arrête de fumer. Donc on est obligé de fumer relativement modérément. Par contre, avec la pipao, c'est très différent. Le fait que le produit passe d'abord dans l'eau et il barbote fait que ces produits irritants restent dans l'eau. Et seul est inhalé le produit recherché, il n'y a pas d'irritation et par conséquent, on peut inhaler beaucoup plus et beaucoup plus rapidement. Ça fait une véritable explosion dans l'organisme et il est très regrettable que ce mode de consommation augmente actuellement fortement.
Est-ce que d'autres éléments caractéristiques de la consommation évoluent ?
Exactement. Ce qui évolue beaucoup, en dehors de la façon de consommer, dont j'ai dit un mot à l'instant, c'est la plante elle-même. Grâce à des méthodes de sélection génétique, on est arrivé à choisir, à cultiver des plantes, des cannabis indica, beaucoup plus riches en THC, ce produit psychoactif dont nous parlions tout à l'heure. Autrefois, la teneur des extraits était de l'ordre de 5% au maximum. Maintenant, on trouve dans le commerce des plants qui sont beaucoup plus riches et par conséquent, les produits que consomment les jeunes en particulier sont beaucoup plus actifs de ce point de vue-là et c'est naturellement un élément à considérer. Il n'y a guère de commune mesure entre le pétard que fument les jeunes actuellement très souvent, et ceux qui étaient consommés il y a une cinquantaine d'années, qui étaient beaucoup plus pauvres. Malheureusement aussi, la plante est très facile à cultiver. Elle se développe rapidement, et on peut la cultiver non seulement sur des sols, dans des champs, mais également dans des milieux autres que les sols naturels. C'est avec des substrats que l'on trouve malheureusement dans le commerce assez facilement, en particulier sur Internet. Et on arrive ainsi à cultiver des plants sélectionnés pour leur richesse en THC dans des conditions tout à fait particulières, dans des appartements, avec une lumière artificielle. Et donc, il y a maintenant environ 15%, c'est difficile à chiffrer exactement, du cannabis qui est consommé en France, qui est cultivé et non pas importé.
Est-ce qu'on a du cannabis génétiquement modifié ?
Il y a une sélection qui a été faite, comme dit, une sélection sur certains plants qui se sont révélés d'une richesse considérable, notamment un plant hollandais qui est actuellement largement diffusé et qui est différent, comme je vous le disais, des plants d'autrefois qui venaient essentiellement du Maroc ou des pays du Moyen-Orient.
De nombreuses idées préconçues circulent sur le cannabis. J'aimerais évoquer la première. On dit souvent que le cannabis n'agit pas comme une drogue. Et je le disais en introduction tout à l'heure, on parle plutôt de drogue douce à son égard. Est-ce que c'est justifié ? Est-ce que c'est légitime ?
Eh bien, pour répondre à votre question, il faut voir ce qui se passe lorsque on consomme du cannabis. Nous nous centrons, si vous voulez bien, sur la consommation par inhalation. La consommation peut aussi se faire sous forme de cannabis ajouté à des aliments, des confitures, des sucreries, des pâtisseries. Mais là, le destin dans l'organisme est légèrement différent. Concentrons-nous, si vous le voulez bien, sur ce qui se passe quand on fume du cannabis.
Et c'est la principale modalité de
consommation. C'est la principale modalité. Généralement, il est associé à du tabac. Et lorsqu'on le fume, le THC circule dans par voie sanguine, mais il a une caractéristique dont j'ai déjà dit un mot tout à l'heure. Il est soluble dans les graisses. Et parmi les parties grasses de l'organisme, il y a le cerveau, le système nerveux central, qui a un caractère de matière lipidique et le cannabis, le THC du moins, va se fixer très rapidement dans le cerveau. C'est là une caractéristique tout à fait exceptionnelle. Les autres drogues ou substances psychoactives, dans l'ensemble, sont hydrophiles, c'est-à-dire sont solubles dans l'eau, alors que le THC ne l'est pas. C'est la raison pour laquelle il ne va pas rester très longtemps dans le sang ou dans les autres liquides biologiques, et on va le retrouver très massivement fixé dans le système nerveux central, où il va pouvoir exercer ses actions. Sa durée de vie, donc, dans le sang, est de l'ordre de minutes, et pas du tout d'heures ou de semaines, alors que dans le cerveau, il va persister pendant une période très longue.
Alors, est-ce qu'il est plus efficace que d'autres drogues ?
Plus efficace, ça dépend ce que vous entendez par efficacité, il est plus rémanent. C'est une drogue lente par opposition aux autres drogues qui généralement agissent comme lui dans un premier temps, mais qui généralement ont une action qui ne dure pas aussi longtemps que celle du cannabis.
Et quels sont les mécanismes de cette action justement ?
Alors, si vous voulez que nous parlions de mécanisme, avant d'envisager les effets sur l'organisme...
Oui, très brièvement, juste pour donner une idée de comment ça se passe.
Comment ça se passe ? Eh bien, il existe au niveau du système nerveux central, du cerveau, un certain nombre d'éléments qui font partie de ce que l'on appelle le circuit de la récompense. Ce circuit a pour effet de relier les informations externes ou internes, par exemple la consommation de cannabis, à des satisfactions potentielles. Ce circuit de la récompense comporte des structures qui sont au niveau de la partie la plus profonde du cerveau, et notamment une structure qu'on appelle le noyau accumbens, et comporte également le cortex préfrontal. Toutes les substances que l'on qualifie de drogue ont en commun d'agir sur ce circuit de la récompense. Le mécanisme le plus fondamental est qu'elle augmente la libération d'un neuromédiateur que l'on appelle la dopamine. Cette dopamine a des actions multiples, mais elle donne, lorsqu'elle est libérée, une sensation de plaisir. On l'a appelé l'amine du plaisir. Le cannabis, comme les autres drogues, augmente la libération de dopamine dans certaines de ces structures dont j'ai parlé, que je ne peux malheureusement pas détailler, faute de temps, de ce circuit de la récompense. En même temps, il modifie le système sérotoninergique qui contribue également au système qui, bien que ne faisant pas partie proprement dit du système de récompense, a un rôle dans la sensation de satisfaction.
Je vous propose de marquer une courte pause avant de nous retrouver pour la suite de notre émission.
Volontiers.
Parce qu'ils ont façonné l'histoire de nos civilisations, ils furent acteurs ou témoins de cette histoire. Leurs travaux et ouvrages nous font traverser les siècles. Historiens, philosophes, économistes, juristes et sociologues s'expriment sur Canal Académie. Les membres de l'Académie des sciences morales et politiques racontent. Retrouvez-les dans Un jour dans l'histoire, une émission de la rédaction de Canal Académie.
Nous retrouvons le professeur Nordman, président de la commission addiction de l'Académie nationale de médecine, qui s'entretient avec nous au sujet du cannabis. On a donc vu dans la première partie de notre discussion que le cannabis était une drogue comme les autres en ce qui concerne son action dans le circuit de la récompense. Alors, pourquoi parle-t-on de drogue douce ?
On parle de drogue douce de façon tout à fait arbitraire. Parce que le cannabis a été longtemps considéré comme ne donnant pas de dépendance. En tout cas, pas de dépendance physique. Qu'est-ce que c'est que la dépendance ? C'est le fait que lorsque on consomme une substance, on devient peu à peu tolérant, c'est-à-dire que pour obtenir les mêmes effets que ceux qui étaient les effets initiaux, on est amené à augmenter les doses. Et dans une étape ultérieure ou parallèlement, on a une dépendance qui est psychique, c'est-à-dire que l'on désire intensément retrouver les sensations initiales. C'est ce que l'on appelle la dépendance psychique. Lorsque on en est privé, on cherche par tous les moyens à retrouver la dose. On devient addict, l'addiction. Autrefois, c'était le fait de quelqu'un qui avait contracté une dette et vis-à-vis d'un seigneur au Moyen-Âge. Et l'addiction voulait dire qu'il était, par rapport à son seigneur, il était obligé de lui rembourser cette dette. Eh bien, l'addiction, là, dans le sens habituel, actuel, c'est la nécessité de retrouver cette substance que l'on a consommée avec plaisir initialement. En dehors de cette dépendance que l'on peut appeler psychologique ou psychique, qui fait que l'on recherche à tout prix la dose, les drogues dites que certains ont appelées dures donnent une dépendance physique. C'est-à-dire que lorsque on en manque, il se produit des altérations du comportement extrêmement sérieuses. Vous savez que lorsque un sujet qui héroïnomane est en manque d'héroïne, il va y avoir des manifestations physiques extrêmement caractéristiques. Or, le cannabis ne donne pas de ces signes de sevrage tels que les drogues que l'on a appelées dures.
Pour quelle raison ?
Alors la raison est la suivante. Comme je vous l'ai dit, il se fixe dans le cerveau, massivement. Il y reste séquestré. Et il est libéré très progressivement. Par conséquent, il n'y a pas un moment où, d'un instant à l'autre, le sujet est en manque. Au contraire, il y a une libération progressive de ce cannabis accumulé dans le cerveau. Alors, est-ce que ça signifie qu'il n'y a pas de dépendance, que du moins la dépendance n'est que psychique ? Absolument pas. Lorsque, chez l'animal, on administre un inhibiteur des récepteurs au cannabis, à ce moment-là, on voit apparaître une dépendance. Donc elle existe, elle est masquée simplement par le fait que le cannabis se libère progressivement à partir du cerveau et qu'il n'y a donc pas un moment où son taux sanguin et cérébral tombe à des niveaux extrêmement bas. En réalité, les mécanismes sont donc les mêmes quelles que soient les drogues. Et cette distinction entre drogue douce et drogue dure est absolument erronée. Elle est très dangereuse au point de vue du message de santé publique, car elle donne l'impression que c'est une drogue que l'on peut consommer sans risque.
Est-ce qu'on peut faire une distinction facilement entre des fumeurs occasionnels et des fumeurs dépendants ? Enfin, des fumeurs de cannabis, j'entends.
On peut faire une distinction par un interrogatoire, par leur comportement. Normalement, un fumeur occasionnel n'a pas de troubles apparents en dehors du moment où il fume. Il fume généralement par plaisir, puisque le cannabis donne, lorsqu'on l'expérimente, en général, une sensation de bien-être, de désinhibition, de facilitation des contacts avec autrui. Et c'est bien sûr la raison pour laquelle les jeunes en particulier ont tendance à faire cette expérimentation. Par contre, ce qui est très grave, c'est que quand il y a une consommation répétée, ces sensations de plaisir s'estompent, et pour les retrouver, il faut augmenter les doses, augmenter la fréquence. Et ces sensations de plaisir, en réalité, sont masquées par les perturbations qui accompagnent la consommation de cannabis, même aiguë. Lorsqu'on étudie de près le comportement de ces jeunes lors de la consommation d'un joint, eh bien, on constate qu'ils ont une altération transitoire de leur réalité et de leurs réflexes. Ils ont des troubles de la mémoire. Le cannabis n'empêche pas de garder en souvenir les faits anciens, mais il empêche la mémorisation à court terme. Il perturbe l'attention.
Donc il ne faut pas fumer avant de faire ses devoirs.
Donc il ne faut pas fumer avant de faire ses devoirs. Il faut encore moins fumer avant de faire une tâche complexe, telle que conduire une voiture, on en parlera peut-être tout à l'heure, parce que conduire une voiture est quelque chose de complexe qui nécessite une coordination entre la perception et les réflexes extrêmement au point, alors que la consommation de cannabis perturbe justement cette perception. Donc voilà ce qui se passe lorsqu'on consomme d'une façon aiguë. Il faut dire aussi que chez certains sujets, et ça c'est assez méconnu, la consommation du 1er juin peut donner des catastrophes. Il y a des cas où il y a un épisode psychotique, il est arrivé que un sujet se défenestre, il est arrivé qu'il soit agressif, et il est arrivé donc qu'un joint en expérimentation n'est pas dangereux, est une idée qui est heureusement, dans la plupart des cas, il n'y a pas ces épisodes dramatiques, mais ça peut arriver. Et ça arrive d'autant plus que la consommation est faite, nous le verrons peut-être tout à l'heure, par des sujets de plus en plus jeunes, des adolescents, dont parfois même des préadolescents.
Justement, on dit souvent que la consommation de cannabis n'est pas un problème de santé publique. Elle serait essentiellement le fait de jeunes issus de familles décomposées ou de banlieues défavorisées. Est-ce que c'est vrai ?
C'est absolument inexact. Et pour répondre à cette question, il nous faut peut-être voir les chiffres de consommation. Comme nous l'avons déjà dit, la consommation est essentiellement le fait des jeunes. Comment la chiffrer ? Eh bien, il y a plusieurs études épidémiologiques qui ont été réalisées en France et en Europe. Et pour n'en citer qu'une, je citerai l'enquête Escapade 2005, dont les résultats viennent d'être publiés il y a quelques semaines. Qu'est-ce que c'est que cette enquête Escapade ? Nos collègues Larcan et Henrion ont mis au point une enquête qui touche tous les jeunes de 17 ans, garçons comme filles. Cette enquête se fait au moment de la journée d'appel et de préparation à la défense à laquelle sont conviés tous nos jeunes de 17 ans.
Filles et garçons.
Et justement, ce qui est remarquable, c'est que grâce à l'action des collègues que je viens de citer, il y a un questionnaire sur la santé, et notamment sur les consommations. Et cela donne donc une enquête touchant 30 000 sujets en une seule occasion. Eh bien, qu'est-ce qu'on apprend ? Qu'il y a, si l'on considère l'expérimentation du cannabis, 50%, soit un jeune sur deux, à 17 ans, déclare avoir expérimenté le cannabis. Ce chiffre passe d'ailleurs à 19 ans à 60%. Donc c'est un usage qui touche la moitié de la population jeune de 17 ans, ou même plus que la moitié. Les chiffres sont à peu près identiques à ceux du tabac. La consommation est relativement stable par rapport aux chiffres de l'an 2000, alors que précédemment, elle était beaucoup plus faible. C'est dans les années 80 que la consommation a très fortement augmenté. Si nous voyons les chiffres de 1993, il y avait 12% d'expérimentateurs. Et donc le chiffre a été multiplié.
À 17 ans aussi ?
Non, là c'était dans la période 15-16 ans. Je n'ai pas le chiffre exact de 17 ans, mais disons que pour simplifier, on peut dire que dans l'ensemble, dans les années 80, la consommation a été multipliée par 3.
J'ai des chiffres pour 1983. Oui. 34% des garçons et 17% des filles avaient déjà fumé un joint à 18 ans à cette époque-là. Donc effectivement, beaucoup moins qu'aujourd'hui.
Beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et ce qu'il y a de remarquable, c'est que puisque nous atteignons un chiffre de 50% à 17 ans, de 60% à 19 ans, cela prouve bien qu'il ne s'agit pas uniquement d'une consommation limitée à certains milieux. Les études faites dans les banlieues et dans les collèges ou lycées des milieux beaucoup plus huppés montrent qu'il n'y a pas de différence considérable. Cette consommation existe dans le 8e et le 16e arrondissement de Paris. Et pourquoi est-elle plus peut-être favorisée dans ces quartiers? C'est peut-être parce que l'accès à l'argent de poche y est plus facile que dans d'autres zones.
Dans le contexte de cette consommation généralisée, est-ce que certains jeunes sont plus vulnérables? Enfin, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs?
C'est une question tout à fait fondamentale que vous posez là. Il y a deux types de vulnérabilité. Il y en a une qui concerne l'âge. Plus la consommation est jeune et débute à un jeune âge, plus les sujets sont vulnérables. C'est une règle. Le système nerveux central est en pleine réorganisation. Formation des synapses, des contacts entre les différents neurones vers l'âge entre 12 et 18 ans. Et c'est justement l'âge où la consommation de cannabis est la plus élevée. Et c'est donc dans cette période où le jeune forme son cerveau que agit cette substance. Et c'est là l'un des dangers majeurs. Ceci d'autant plus que si l'on considère l'évolution, la consommation est de plus en plus précoce. Elle était dans la tranche 14-15 ans, de 1% en 1988. Elle avait passé à 25% en 2003. L'expérimentation à l'âge de 14-15 ans, c'est-à-dire en classe de 3e, chez les garçons. Chez les filles, les chiffres sont un peu plus faibles. Ceci est une constante dans l'ensemble. Elles consomment moins de substances psychoactives que les garçons. Ceci est donc une vulnérabilité, une sensibilité liée à l'âge de la consommation et de la première consommation. La deuxième chose, c'est qu'il existe des vulnérabilités individuelles. Tous les sujets ne sont pas égaux devant la drogue, loin de là, devant n'importe quelle substance. Et malheureusement, dans l'état actuel des choses, on ne peut pas prévoir cette susceptibilité particulière. Mais elle existe. Ce sont parfois des terrains qui ont des troubles psychiatriques débutants ou larvés. Et le fait de consommer à cet âge, chez des sujets vulnérable, et même à un âge plus tardif, favorise le développement d'affections psychiatriques. On a discuté pendant longtemps si le fait de fumer le cannabis était une cause de schizophrénie. On ne peut pas répondre de façon catégorique, oui, ça ne semble pas être le cas, mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est une cause favorisant la schizophrénie. Et de même, on a voulu, pendant un certain temps, prétendre que le fait de fumer du cannabis va conduire automatiquement ou fréquemment à la consommation de substances beaucoup plus dangereuses encore, telles que l'héroïne. Il n'y a pas, c'est ce qu'on avait appelé la théorie de l'escalade. On ne peut pas affirmer qu'il ce soit le cas, bien au contraire, les statistiques ne le permettent absolument pas. Mais ce qu'on peut dire, c'est que tous les héroïnomanes ont déjà consommé du cannabis. Donc c'est un danger, car si nous avons parlé tout à l'heure de drogue douce et de drogue dure, j'ai rejeté totalement cette distinction, mais ça ne veut pas dire que l'héroïne ne représente pas un danger particulier, car il y a une possibilité de mortalité par overdose.
Je vous propose de marquer une courte pause avant de nous retrouver pour la suite de notre émission.
L'Académie française.
L'Académie des inscriptions et belles-lettres.
L'Académie des sciences.
L'Académie des beaux-arts.
L'Académie des sciences morales et politiques.
Pour vous,
une seule radio.
Sur Internet,
Canal Académie.
Nous retrouvons le professeur Nordman, président de la commission Addiction de l'Académie nationale de médecine, au sujet du cannabis. Alors, vous nous disiez qu'on pouvait mourir d'une overdose avec de l'héroïne. En ce qui concerne le cannabis, on dit souvent qu'il n'a jamais tué personne.
Il est exact qu'il n'y a pas de mortalité par overdose. Pourquoi ? Parce que le cannabis se fixe au niveau du système nerveux central sur des récepteurs spécifiques que l'on appelle des récepteurs CB1. Or, ces récepteurs ne sont pas présents dans le bulbe. Le bulbe, c'est la partie du cerveau où se trouve le contrôle des fonctions vitales. De ce fait, lorsque l'on consomme du cannabis, il n'y a pas de perturbation de ces récepteurs et il n'y a donc pas de mort par overdose, alors qu'au contraire, il existe des récepteurs pour d'autres drogues telles que l'héroïne qui font que la consommation peut entraîner une mort dans ces conditions. Est-ce à dire que le cannabis n'a jamais tué personne ? Eh bien non. D'une part, nous avons parlé à l'instant de la susceptibilité individuelle qui est variable. Eh bien, dans certains cas, même dès le stade de l'expérimentation, parfois du 1er juin, il y a des troubles hallucinatoires qui font que le sujet porte atteinte à sa propre vie. Il y a eu quelques cas, par exemple, de défenestration avec mort du sujet. Il y a eu des actes de violence et il y a surtout une mortalité liée à l'accidentalité. Accidentalité au travail, si le sujet a un métier à risque.
Oui, pas à l'école, j'espère.
Pas à l'école, non. Là, il s'agit plutôt de sujets un peu plus âgés qui ont un métier à risque dans la mécanique, par exemple. Et surtout, il y a le grand problème de l'accidentalité routière. Pendant longtemps, on a négligé cette question. Cependant, étant donné que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la consommation de cannabis, en dehors des effets de plaisir, donne des perturbations du comportement, des réflexes, et il était donc logique de penser qu'il puisse donner des perturbations de la conduite automobile. On l'a nié pendant longtemps, parce que on attribuait ces perturbations, ces accidents, essentiellement à l'alcool. En fait, cependant, les tests faits sur des simulateurs de conduite avec consommation de cannabis ou contrôle médical ont montré que le sujet ne réagit pas normalement à des incitations, à des signaux d'arrêt. Il ne considère pas normalement les réactions à faire en cas d'urgence. Ceci est donc prouvé à l'aide de tests de simulation. Mais ce qui est plus fondamental, c'est que les études épidémiologiques qui ont été faites dans certaines zones, par exemple en Sarre, puis plus récemment en France, ont montré que le fait de consommer du cannabis augmente de façon significative le risque d'accident et d'accident extrêmement grave. Les chiffres sont de l'ordre de 2 fois plus de risques par le cannabis seul. Mais le cannabis seul est rarement consommé tel que. Nous n'avons pas encore parlé de l'association cannabis-tabac et surtout cannabis-alcool.
Justement, je voulais vous poser la question parce que c'est vrai que les effets que vous décrivez font penser à l'alcoolémie au volant et on entend souvent les jeunes dire « D'accord, je fume du cannabis, mais au moins je ne fume pas de cigarette et je ne bois pas d'alcool. »
Alors ceci pose la question fondamentale. Effectivement, la réponse à un message qui a été souvent divulgué et qui a été cause de beaucoup de désarroi dans la population jeune. Il s'agit d'un rapport sur la dangerosité des drogues qui, dont la conclusion était « le cannabis est beaucoup moins dangereux que l'alcool ou le tabac ». eh bien, ce message est irresponsable pour deux raisons. D'abord, si l'on considère les produits seuls, cannabis, alcool, tabac, il est certain que l'alcool, qui tue de l'ordre de 40 000 sujets par an, le tabac, qui en tue de l'ordre de 60 000, sont beaucoup plus dangereux que le cannabis en termes de mortalité. Mais en ce qui concerne le comportement, le cannabis est particulièrement dangereux lorsque on le consomme de façon répétée et intensive. Et un tiers des expérimentateurs vont avoir une consommation répétée.
Pourquoi est-il dangereux? À cause des symptômes dont on a parlé tout à l'heure, des risques d'accident, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons?
Il y a bien sûr les risques d'accident dont on a parlé, mais essentiellement parce que le cannabis a ce que mon collègue Jean Constantin a appelé une psychotoxicité importante.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que il fait, lorsqu'il est consommé de façon régulière, intensive, le sujet finit par se centrer sur cette consommation. Il va fréquenter des copains qui consomment comme lui, il s'isole de sa famille, il s'isole de son travail qui ne l'intéresse plus, il y a ce que l'on a appelé un syndrome amotivationnel, c'est-à-dire qu'il n'est plus motivé pour s'instruire, pour coopérer au sein de sa famille et de la société, et il devient donc, en quelque sorte, exclu du cursus normal des études et des professions auxquelles il pourrait prétendre. C'est donc une toxicité, une dangerosité particulière qui fait qu'on peut considérer qu'il y a quelques dizaines de milliers de jeunes qui, du fait de la consommation régulière de cannabis, sont en somme perdus, n'ont plus de fonction importante dans la société, et ceci se passe à leur désintérêt, et d'autant plus grave que la société actuelle demande des performances de plus en plus marquées et de plus en plus élitistes. Ceci donc vous montre que le cannabis a une psychotoxicité particulière que n'a pas, par exemple, le tabac. Deuxièmement, quand on dit que le cannabis serait moins dangereux que l'alcool et le tabac, on oublie que, en général, les sujets, les jeunes, commencent par l'alcool ou le tabac et pas par le cannabis. Ils ne font pas un libre choix. S'ils avaient à choisir, souhaitez-vous prendre l'une de ces trois substances ? Il ne paraîtrait peut-être pas illogique, malgré le danger d'une consommation régulière dont je viens de parler, de leur conseiller de prendre du cannabis plutôt que l'alcool ou du tabac. Si vous allez de Paris à Lyon, vous avez le choix entre prendre la voiture ou prendre un TGV, et on vous dira que le TGV est moins dangereux que la voiture. Mais dans le cas des jeunes, en général, ils consomment à la fois cannabis et tabac. D'abord, puisqu'ils le fument, en général, le support est le tabac.
Donc ils ne fument pas de cigarettes, mais ils fument du tabac quand même quand ils fument sous forme de joint.
D'une part, ils le fument sous forme de joint, et ce qui est le fruit d'études récentes, et 60 millions de consommateurs ont insisté sur ce fait, lorsque on fait des tests sur des rongeurs auxquels on fait inhaler les fumées de tabac ou de cannabis, on constate que le cannabis a une action beaucoup plus marqué, il contient beaucoup plus de goudron et d'oxyde de carbone, il dégage plus d'oxyde de carbone lorsqu'on le fume que le tabac lui-même. Donc il est à la fois associé au tabac et il augmente la dangerosité du tabac par son action propre. Il est donc à long terme cancérogène et on peut s'attendre à ce que dans quelques années, lorsque la tranche d'âge des consommateurs actuels de cannabis qui a beaucoup augmenté, que l'incidence de cancer du poumon augmente encore par rapport à ce qu'elle est actuellement.
On parle bien des consommateurs réguliers ou relativement réguliers.
On parle bien des consommateurs réguliers. On ne parle pas de l'expérimentateur, bien entendu. Là, on parle de ceux qui ont une consommation régulière, excessive. Et donc, cannabis et tabac, c'est un peu le même combat. Il faut essayer de lutter contre les deux, surtout du fait que la consommation par la fumée est généralement associée. En ce qui concerne l'alcool, eh bien, ce qu'il y a de grave, c'est que le cannabis augmente l'appétence envers l'alcool. On a pu étudier chez les souris. On prend d'abord des souris ou des rats qui sont sélectionnés pour leur appétence envers l'alcool. C'est-à-dire que généralement, les rongeurs sont beaucoup plus sages que les hommes et consomment pas beaucoup spontanément. Mais il y a des souches qui en ont un usage habituel ou plaisant. Eh bien, si on inhibe le système cannabinoïde, à ce moment-là, la consommation spontanée d'alcool va diminuer. À l'inverse, si on stimule ce système, comme c'est le cas quand on prend du cannabis, on augmente la consommation d'alcool. Donc, il y a une interrelation entre les trois substances dont j'ai parlé. Et de plus, il y a polyconsommation. Le fait de consommer de l'alcool, bien entendu, ne préserve pas de la consommation de cannabis. Bien au contraire, très souvent, actuellement, il y a polyconsommation.
Donc ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est souvent l'un et l'autre, voire les trois à la fois.
Exactement, ça n'est jamais un choix raisonné, un choix réfléchi. Aucun jeune ne se pose la question, qu'est-ce que je vais faire ? Il est soumis à des tentations par les copains, par les différentes circonstances, et souvent il commence par l'alcool au moment de la communion, où il vide les verres des parents, et peu à peu il va fumer, surtout si les parents fument eux-mêmes, et puis un jour il va rencontrer le cannabis à l'école, malheureusement, car c'est souvent là que commence cette consommation, étant donné que l'accès y est malheureusement facile malgré la législation.
Alors la frontière qui consiste à dire l'alcool et la cigarette, ce seraient les drogues des parents et le cannabis, la drogue des jeunes, c'est une frontière complètement fausse.
Elle est en tout cas très largement erronée. Il n'y a pas cette frontière, mais puisque vous parlez des parents, il est certain que les statistiques semblent montrer que la consommation de cannabis diminue avec l'âge. Mais beaucoup de parents de la génération actuelle ont été élevés dans les années 68 et cette période où on ne savait pas tout ce que je viens de vous exposer, où on ne voulait pas le savoir. Et par conséquent, ils ont été eux-mêmes des consommateurs. Et ils considèrent que parfois, que fumer du cannabis n'est pas grave.
Je vous propose de marquer une courte pause et de nous retrouver pour la suite de notre émission.
Un événement,
une association,
une œuvre,
une fondation.
Tout ce qui mérite votre attention est dans Point de Mire,
en direct ou en médiathèque,
sur Canal Académie.
Nous retrouvons le professeur Nordman, président de la commission addiction de l'Académie nationale de médecine, qui nous aide à faire le tri entre le vrai et le faux sur le cannabis. Alors, on parlait tout à l'heure des parents, eux-mêmes anciens fumeurs pour certains. Ils auraient pourtant un rôle à jouer dans la prévention, puisqu'on l'a vu, la consommation de cannabis n'est pas anodine. Quels sont les autres acteurs qui peuvent jouer un rôle ? Et est-ce qu'on a des expériences réussies en matière de prévention ?
Eh bien oui, les parents, bien entendu, doivent jouer un rôle fondamental. Il faut que, dès qu'ils s'aperçoivent, pour une raison quelconque, c'est-à-dire soit qu'ils constatent que leurs jeunes fument, soit qu'ils constatent qu'il y a une modification dans leur cursus scolaire avec des échecs qui n'étaient pas habituels, soit qu'ils constatent que les jeunes s'éloignent du cercle familial sans raison apparente. Il faut qu'ils s'alarment, il ne faut pas qu'ils s'affolent, il faut qu'ils s'alarment. Et il faut qu'ils aient des instructions claires, que faire. Pour cela, il est nécessaire que l'idée que la consommation de cannabis est banale soit rejetée pour les raisons que j'ai exposées tout à l'heure. Elle est dangereuse. Il faut donc que les jeunes soient au courant, qu'il y ait une information. L'information par les parents, mais déjà l'information à l'école. Pour cela, il est nécessaire que les éducateurs, les professeurs d'école et de collège et de lycée soient eux-mêmes informés. Or, ils ne le sont que très partiellement à l'heure actuelle. C'est la raison pour laquelle nous avons récemment fait à l'Académie de médecine un colloque conjointement avec le recteur de l'Académie de Paris pour essayer de mobiliser les enseignants, leur donner des messages clairs, et ceci avec la collaboration des médecins, et notamment des médecins scolaires et des médecins libéraux. Des expériences analogues ont été faites en Haute-Normandie, dans le Nord-Pas-de-Calais, et elles donnent des résultats intéressants pour que les jeunes aient un message clair le plus tôt possible.
Quelle est la teneur du message transmis aux jeunes ?
Bien, le message doit être, d'une part, il existe des complications de santé que nous avons énumérées, mais les jeunes ne sont guère sensibles aux messages de santé. Le message qui peut-être les frapper, c'est que, en réalité, la prise de cannabis peut conduire à la répétition, et à ce moment-là, ils ont perdu une liberté. Ils deviennent esclaves de ce produit. Les jeunes sont très sensibles aux notions de liberté, et certains ont affirmé que s'attaquer à la consommation de cannabis, c'est un message anti-libertaire. Chacun doit pouvoir avoir la liberté de faire ce qu'il désire. Mais en réalité, c'est l'inverse. Ces jeunes, sournoisement, deviennent esclaves du produit, et c'est donc un message auquel ils peuvent être sensibles. Le deuxième message auquel ils peuvent être sensibles, me semble-t-il, c'est que cette perte de liberté se fait au profit des dealers. Et c'est donc toute une économie souterraine qu'ils alimentent par le biais de cette consommation.
Et une exploitation dans les pays producteurs.
Exactement. Et ceci, c'est peut-être des messages auxquels ils peuvent être plus sensibles que des messages portant exclusivement sur la santé, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas que ces messages soient diffusés. L'éducation à la santé est une nécessité, elle doit se faire très tôt, si possible dès la maternelle. Et dans des pays comme la Suède, par exemple, où cette pédagogie de la santé, la valorisation du capital santé a été faite à l'aide d'un nombre d'heures hebdomadaires considérable, eh bien le résultat est que ces pays, la Suède en particulier, ont une consommation de drogue, et notamment de cannabis, infiniment plus faible que la moyenne européenne. Alors que nous, Français, nous sommes, comme pour la plupart des comportements à risque, dans le peloton de tête. Seule la République tchèque affiche des résultats pires que la France. Alors, est-ce que donc nous n'avons rien fait dans les dernières années pour essayer de lutter? Eh bien si, il faut reconnaître qu'il existe depuis quelques années un certain nombre d'actions gouvernementales qu'il faut souligner. Il y a un plan gouvernemental de lutte contre les drogues illicites, le tabac et l'alcool, 2004-2008, qui a été élaboré notamment par la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie, la MILD. Il y a en milieu scolaire un guide d'intervention pour la prévention des conduites addictives qui a été édicté par la direction de l'enseignement scolaire du ministère de l'Éducation nationale.
Justement, comment ça se passe pour le cannabis? Est-ce qu'un monsieur cannabis vient à l'école pour informer les élèves, ou est-ce qu'on peut envisager d'intégrer la prévention au programme scolaire?
Je pense que l'idéal serait qu'il y ait une matière pourrait faire partie de sciences de la vie et de la terre, ou à un autre moment, dans lequel il y ait une éducation à la santé, non pas isolément sur le cannabis, car il ne faudrait pas que la lutte contre le cannabis occulte ou diminue l'intensité des actions contre le tabac et l'alcool, qui sont vraiment indispensables. Heureusement pour le tabac, la population est, semble-t-il, actuellement prête à des mesures coercitives. Pour l'alcool, c'est beaucoup plus difficile, c'est un problème auquel je m'intéresse personnellement et je souhaite qu'on puisse avoir une action courageuse, ce qui n'est pas tellement le cas pour l'instant dans ce domaine si sensible. Mais il ne faut donc en aucun cas que le cannabis occulte les campagnes pour d'autres substances psychoactives, pour la consommation de médicaments, qui est également très élevée en France. Bref, il y a tout un ensemble qui justifie une matière qui pourrait s'appeler éducation à la santé. Sa place exacte est à discuter. Nous avons des contacts avec la direction de l'Institut universitaire de formation des maîtres, justement, pour essayer que cette matière soit enseignée largement. Comme je l'ai dit, elle l'est en Suède. Il y a plusieurs dizaines d'heures d'enseignement sur le sujet et le résultat est remarquable, alors que nous sommes dans le peloton de tête, je l'ai dit. Ce qu'il faut absolument aussi, c'est que les messages soient univoques, qu'il n'y ait pas de temps en temps une petite pointe qui laisse la porte ouverte à un message différent. Par exemple, je citais les actions remarquables qui sont faites actuellement contre le cannabis, l'édition de brochures en particulier par l'Institut national de prévention et d'éducation à la santé. Eh bien, ces brochures sont dans l'ensemble excellentes. Mais on trouve parfois une petite phrase qui est la suivante, disant que beaucoup de jeunes qui consomment en resteront à une expérience unique ou n'auront qu'une consommation occasionnelle en petite quantité. Le passage à des consommations de plus en plus régulières ou à des produits de plus en plus dangereux ne se produit pas de façon systématique. C'est vrai, mais c'est une façon d'exprimer le message qui est dangereuse, parce que ça a l'air de dire aux jeunes « Beaucoup d'entre vous en resteront à une consommation occasionnelle, donc vous pouvez y aller, c'est pas très dangereux. De plus, c'est très rare que vous passiez à des produits plus dangereux. » Si c'est exact, en vertu du principe de précaution, il me semble que le message ne doit pas être celui-là. Il doit être même une consommation expérimentelle, peut, dans certains cas, chez certains d'entre vous, donner des catastrophes. Quant à la consommation répétée, elle est une cause de troubles de l'insertion scolaire et sociétale. Vous voyez qu'à partir de faits qui sont scientifiquement validés, ils existent actuellement grâce en particulier à l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, qui a édité une brochure très complète. Ces notions sont scientifiquement validées, mais sont souvent interprétées par les médias de façon très dangereuse. L'un des plus grands quotidiens nationaux a ainsi publié récemment, depuis 10 ans, des scientifiques s'affrontent sur l'éventuelle dangerosité du cannabis.
Mais est-ce qu'un message trop intransigeant, je repense à la brochure de l'INPES, ne risque pas de braquer les jeunes, justement ?
Dans l'ensemble, elle est excellente. Je dis simplement qu'à l'intérieur de cette brochure, il y a quelques phrases, surtout dans l'introduction, qui ne sont pas spécifiques du cannabis, qui sont sur les substances psychoactives en général, qui risquent de dire « Ouf, finalement, une fois de temps en temps, c'est pas bien méchant ». Or, nous, à l'Académie de médecine, nous pensons que l'un des buts, c'est d'essayer de prévenir la consommation avant même l'expérimentation, c'est-à-dire de faire de la prévention primaire. Alors que les organismes qui ont été mis en place doivent être félicités parce qu'on a créé récemment des consultations cannabis un peu partout dans les hôpitaux. On a mis au point des lignes téléphoniques pour les jeunes ou pour les parents. C'est très bien, mais ceci, c'est pour ceux qui ont déjà consommé. Mais je considère personnellement, et nous l'avons exprimé par 5 ou 6 communiqués que j'ai eu l'honneur de présenter à l'Académie de médecine et qui ont été diffusées depuis, nous pensons qu'il faut essayer de prévenir la première consommation, car parmi ces premiers expérimentateurs, il y en a quelques-uns, heureusement rares, qui auront des réactions catastrophiques, mais il y aura surtout une proportion relativement importante, et ça représentera finalement des dizaines de milliers de jeunes qui vont avoir une consommation répétée et dangereuse. Donc je pense qu'il y a là une nécessité d'informer, ça ne suffit pas, mais d'essayer de prévenir. Il ne faut pas que le message soit culpabilisant, il ne faut pas que les parents, que les éducateurs donnent aux jeunes l'impression qu'ils sont des délinquants. Il faut simplement essayer qu'ils deviennent des malades, des sujets qui ne peuvent plus vivre sans leur drogue. Voilà quelques points que nous pensons importants. Je n'ai pas eu le temps de signaler aussi qu'il y a des cibles particulières qui sont les femmes enceintes, car nous n'avons pas parlé des complications organiques qui peuvent survenir et nous n'avons parlé que de cancer, il y en a d'autres, sur le système cardiovasculaire, sur l'immunité. Et il y a aussi un risque pour la descendance et notamment pour les femmes enceintes, pour leur gestation. Et donc là, il y a des cibles privilégiées. Il est indispensable que dans toute maternité, les informations soient largement diffusées. Et d'une façon générale, les femmes sont plus sensibles que les hommes aux messages de prévention. Et donc, il faut les diriger sur les deux sexes et notamment sur les femmes. Bien qu'elles soient moins consommatrices, elles sont peut-être plus sensibles. Et c'est peut-être là une façon de limiter les dégâts.
Ce sera peut-être l'occasion de revenir pour une prochaine émission. Merci beaucoup, professeur Nordman, pour la clarté de vos explications.
Merci beaucoup à vous et j'espère simplement que cette modeste contribution pourra contribuer à limiter la consommation en France et, si possible, arriver à des chiffres voisins de ceux des pays comme la Suède qui sont en queue de peloton et non pas à maintenir notre pays au niveau de ceux qui ont le plus de consommation à risque.
D'accord. Merci.